deuxième lecture de Grégoire de Varimaëlé, eh bien, toute la paracha. Ce sera l'opinion de la Yakiva. Grégoire de Varimaëlé, parce qu'il y a écrit à la fin du verset Asher Anochim et Tzavecha, Ayom. Et seront toutes ces paroles que moi je te prescris aujourd'hui. Or aujourd'hui, il a au moins parlé toute cette paracha. Mais troisième lecture, en réalité, ce jour-là, c'était le 7. Quelle date du calendrier? Quel est le jour de sa vie?
Adar.
Très bien. Où Moïse a dit le Kriyat Shema, c'est le jour de sa mort. C'est-à-dire le 7 Adar. Et ce jour-là, il a récapitulé l'ensemble de la Torah dans toutes ses fers de Varim. On retrouve le même mot. Eléa de Varim. C'est le début du cinquième livre de Varim. Et ça signifie donc, en fait, compte toute la Torah. Vous voyez comment nous récupérons ces différents niveaux, comme dans l'analyse de tout à l'heure. Et alors même que je dirais que les paroles dont il s'agit, c'est ce premier verset, en fin de compte, le mot essentiel du verset, c'est-à-dire le mot Echad, en fin de compte, il s'agit de toute la Torah elle-même. Vous comprenez la lecture. Bon. Alors, ça nous permet maintenant, je pense que tout le monde est arrivé, d'aborder donc le... la dialectique elle-même. Donc, la motivation de Rabbi, parce que il a écrit Vehayu Advarimae. Vehayu Vehavayatan Yehu. Alors, nous continuons. Je prends le sujet. Et la motivation de Ravanan, c'est de dire non, il y a écrit Shema. Et Shema, cela signifie que la chose s'attache au monde. Il faut comprendre ce que l'on dit. Donc il faut comprendre. Il faut le dire dans la langue qu'on comprend. Et puisqu'il faut le dire dans une langue qu'on comprend, on peut donc le dire dans toute langue qu'on comprend. C'est clair? C'est-à-dire que puisque le plus grand nombre n'est plus dans la situation du Lachon HaKodesh, alors, en s'appuyant sur le fait que, même en Lachon HaKodesh, il faut Shema, on étendra le sens du mot Shema pour fonder le principe que c'est Bechol Lachon Shata Shomer. En toute langue que tu comprends. Alors là commence la dialectique elle-même, où le Rabbi Nami Haktim Shema, mais pour Rabbi aussi, il est écrit dans la page, dans la deuxième page, celle qui est marquée en bas à 59.
Ah oui.
Le texte d'hier. Et nous sommes déjà à la sixième ligne du paragraphe qui commence par Gemara, lui-même.
Oui.
Au milieu de la ligne. Pour Rabbi Nami, mais pour Rabbi aussi, est écrit Shema. C'est-à-dire, comment Rabbi rendra compte du mot sur lequel, par lequel argumente la thèse opposée, Ahum et Ba'ele. Pour lui, ce mot est nécessaire pour fonder le principe Ashmear leoznecha mashatamotzi mipira. Fais entendre à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Nous avons longuement parlé de cela hier. Je ne reviens pas là-dessus. Les Rabbanan, et alors, les Hachamim, ce principe qui vient d'apparaître, que Shema véhicule un principe important, rends-toi compte de ce que tu dis, fais entendre à tes oreilles, engage-toi dans ce que tu dis, vous rappelez toutes ces nuances, comment ils vont le fonder? S'ils utilisent Shema pour en toute langue, ils ne peuvent plus utiliser ce même mot de Shema pour ce principe de faire entendre à tes oreilles. Alors ils ont un autre moyen de réintégrer ce principe. Les Rabbanan, Sabrilou, Kemandermar, eux pensent, Loïch Miarleozno Yatsa, que même s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles, il n'a pas. Il est kidnappé. Nous avons vu pourquoi hier. Précisément parce qu'il s'agit de Bechol Lachon. Et que déjà le Bechol Lachon est défini comme Lachon Sheata Shomea. Il est bien évident qu'il ne peut pas s'agir pour celui qui dit le Kriyat Shema en français. Ou même, comme j'ai moi ajouté, en hébreu mais en pensant français, de ne pas comprendre ce qu'il dit. Parce que sinon, on ne parle pas de lui. C'est pas de lui qu'on parle. C'est clair? Donc, je n'aurais pas besoin d'exiger ce principe et puis comprendre, puisque j'ai dit déjà, premièrement, comprendre. Est-ce que c'est clair? Pour le Rabbanan, mais pour les Hachamim, il est écrit aussi Ve'ayu. Ce Ve'ayu que Rabbi avait expliqué en disant Ve'avayatan Yehu. il faut que ça reste dans la chambre à côté. Alors, Rahoum et Baraléou, eux, en ont besoin de se verre pour le principe suivant chez Loïkra et ma frère, qui ne doit, on ne doit pas lire en désordre. Alors là, c'est là que nous étions arrivés, je pense, hier, avec une équivalence extrêmement importante à comprendre. Que lorsque on n'est pas capable de percevoir, de se représenter la vérité des termes du discours, la vérité du discours dépend de l'ordre des termes. Bon, j'ai dit ça un peu sous forme un peu difficile peut-être, mais je vais essayer d'expliquer. Si on étudie la doctrine de l'intelligence, la doctrine de la raison, qu'est-ce que c'est que finalement l'intelligence ou la raison? C'est le fait de comprendre un rapport entre deux termes. Mais la connaissance vraiment, c'est le fait de connaître les termes dont on parle lorsqu'on parle d'un rapport. Est-ce que c'est suffisant? La pensée scientifique ne prétend plus à renoncer, depuis Auguste Comte, depuis le positivisme, à renoncer à comprendre de quoi elle parle. Ce qu'elle veut établir, c'est la vérité des rapports des choses dont elle parle sans savoir de quoi elle parle. Est-ce que c'est plus clair? Alors vous voyez, il y a là une indication importante. Pour celui qui ne parlera pas en Lachon HaKodesh, la vérité de ce qu'il dit va dépendre de l'ordre dans lequel il est. Et nous avons vu là, dans ce plan, déjà, on va s'en servir que l'ordre est important. L'ordre de l'itinéraire spirituel de la Kavana, de Kabbalah, de Mahout Shamaïm, c'est l'ordre de ces versets. Je ne peux pas commencer à l'envers. Je ne peux pas les mettre en désordre. Est-ce que c'est clair? Plus fort, s'il vous plaît. Parce que pour celui qui parle en Lachon HaKodesh, ça va de soi, c'est plus que ça va de soi, dans ce sens que le Lachon HaKodesh l'oblige à parler dans l'ordre du discours. Vous comprenez? Dans le Ve'ayu, Ve'avayatan, Yehu, tout cela est impliqué, c'est d'ailleurs renforcé par le Ha-Devarim Ha'ele, va dire Rabbi Yehuda. On va voir immédiatement. Si je veux m'exprimer dans la langue du Lachon HaKodesh, le Lachon HaKodesh a en lui-même l'ordre des termes. Mais si je mets ça dans une autre langue, au moins je vais récupérer, autant que se peut, la vérité du discours dans l'ordre des propositions. Dans le Maharal, cette notion de seder, est extrêmement importante. La vérité est dans le seder des choses. Olam ketikuno, un monde en ordre. Et je suis gêné avec le français ordre, parce que ça fait ordre nouveau, ordre ancien, ordre depuis le fascisme. L'ordre, c'est... Vous voyez qu'on est dans un monde où on ne peut même plus parler. Mais le seder en ordre, il y a l'authenticité dans une certaine mise en ordre. D'après une formule du Mishnah important du Birkao, un monde où il y a une place pour chaque chose et une heure pour chacun. C'est une formule extrêmement importante. À chaque chose, il y a une place, et à chacun, il y a un moment. Et c'est-à-dire, c'est le seder. C'est le seder qui est la vérité. Lorsque nous étions arrivés là, on nous avait posé la question « En mukdam ou mukhar va Torah ?» Vous vous rappelez? Mais dans le Sefer Torah, il y a mukdam ou mukhar. C'est un problème extrêmement vaste, d'ailleurs. Vous avez recherché le premier haïn dans la Torah et le dernier haïn? Vous ne faites pas vos devoirs. Voilà, je vais vous donner les versets. Voilà, le premier Aïn qu'il y a dans la Torah, c'est Ve'adam. Aïn, la avod et Adam. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Dans les premiers chapitres. Ça doit être verset 8 du chapitre 2. Non, verset 6 du chapitre 2. La dernière fois qu'il y a Aïn, c'est dans. En Kael Yeshurun. Ça c'est le Aïn Mugdam et le Aïn Mukhar. Alors, étudiez sur le verset, vous verrez quel enseignement apparaît là. Bon. Alors, oui, l'importance de l'ordre. Et là, donc, c'est très important. Je dis beaucoup important, mais parce que c'est important. De se rendre compte qu'on manie ce principe de façon fausse. En disant, il n'y a pas d'ordre dans le Sefer Torah. C'est faux. Il y a un ordre. Il y a un ordre méthodologique, il y a un ordre logique, il y a un ordre d'exposition. La vérité de la Torah dépend de cet ordre-là. Lorsqu'on dit « en mukdam ou mukhar ba Torah », ça signifie tout à fait autre chose. Ça signifie que l'ordre de la révélation de la vérité n'est pas forcément l'ordre d'incarnation chronologique des événements. Dans la réalité, l'ordre chronologique peut être différent que l'ordre logique de la vérité. Il peut arriver, et c'est catastrophe, il peut arriver que Jacob naisse avant Abraham. Ça, c'est dans l'histoire. Ça pourrait arriver, okay? Mais c'est catastrophe. Alors, il faut attendre un temps du monde où c'est Abraham qui naît avant Jacob. Je vous ai donné un exemple fictif, mais vous comprenez l'importance de ça. En bas, il y a des ordres. Dans le monde d'en bas, enfin, dans le monde de la réalité, il y a Moum, c'est Aulam Hafour, c'est Tohu Vabohu. Et donc, lorsque la vérité des Maïm s'incarne, synchronise dans le monde de la réalité, apparaît Teva, apparaît Moum, apparaît Kao. Okay? Mais En Mukdam ou Mukhar, bah Torah. Mais dans le Sefer Torah, il y a Mukdam ou Mukhar. Bon, je pense que c'est mieux. Alors, nous arrivons pratiquement au point d'articulation de la dialectique. Verabi, Sheloi Krale Mafrear Menale. Alors il reste un point élucidé. Un nouveau principe était apparu. Il ne faut pas lire en désordre. Et la question qui vient d'être posée était juste en son temps. Et pour celui qui parle Lashon HaKodesh, ce problème de l'ordre et du désordre du discours, comment apparaîtra-t-il? Alors, la Gemara répond, Nafkale mit devarim a devarim. Eh bien, il l'apprendra, enfin, il l'indiquera, il le mettra en évidence, de la différence entre ces deux mots, devarim a devarim. Alors, j'explique cela. Devarim a devarim. Il aurait suffi que le texte porte Ve'ayu Devarim Ele. Pour ceux qui entendent l'hébreu, vous voyez directement.
Il y a deux ha qui manquent.
Non, il y a un he en plus. C'est-à-dire, le fait que le texte dit Ve'ayu Ha Devarim, alors il doit dire aussi Ha Ele. Mais Ve'ayu Ha Devarim Ele, ceci doit être expliqué. Parce que le même sens serait gardé si le texte portait Ve'ayu Devarim Ele. Et seront ces paroles-là. Mais en hébreu, on a ajouté encore l'article. Le texte a ajouté encore l'article. Ve'ayu hadvarim ha'ele. Alors le sens du he, de ce démonstratif, c'est que non seulement ve'ayu ve'avaya tamidu, mais aussi chez Loïkra le Mafre. Qui doivent être en hébreu, du Lashon HaKodesh et dans leur ordre. Par conséquent, le système de Rabbi est inattaquable. C'est clair? Vous avez compris? Il peut intégrer toute l'argumentation des Hachamim dans son propre système. Ce que la Gemara va nous dire avec beaucoup d'humour, juste la suite. Verabanan et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette différence entre Devarim et Advarim? Réponse, Devarim, Advarim, Ladarche. Devarim, Advarim, ils n'ont pas expliqué. Alors c'est très clair que la Gemara nous montre bien que la Halacha originelle est comme Rabbi. Les Hachamim sont d'accord. Ils n'ont rien à faire entre Devarim et Advarim. S'ils devaient expliquer, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas expliqué, qu'est-ce qu'ils devraient dire, quel est le sens de Devarim et Advarim, c'est que ça doit être en Lashon HaKodesh. Comme ça, ils ne peuvent pas dire, alors ils se taisent. Vous y êtes. C'est joli, non? Est-ce que c'est clair? Bon, alors jusque-là, et puis nous allons éclairer ça d'une autre manière, par un passage qui se trouve dans la troisième page. Je vais vous dire tout de suite où. La troisième page qu'on vous a donnée. Paragraphe B, à la fin de la page.
Mais quelle page ?
La nouvelle.
Quel numéro porte-t-elle ?
60, hein ? 60. Donnez à ceux qui sont arrivés. Attendez-vous, madame. Ceux qui n'ont pas la feuille. Bon, est-ce que je suis juste assez clair ? Alors, vous voyez comment est l'ordre des propositions du texte. On a cité cette Boraïta de la controverse entre Rabbi Yehuda et Rabbi pour éclairer la portée de ce cas apparemment particulier, mais en réalité très général, que dans la halakha ancienne, on préparait, on scrutait le texte du Kriyat Shema, soit selon Rachid, soit selon Tosfos, soit selon Rabbi Nissim, pour préparer la lecture du Kriyat Shema sur Tava. Et si pendant cette préparation arrive le temps de la lecture elle-même, alors si on avait mis l'intention de lire, la préparation prend la même valeur. On est quitte par, on est yotze par la préparation. C'est une façon très détournée dont la Mishnah s'y prend pour nous dire, pour dire Kriyat il faut une Kavana. Mais c'est pour nous indiquer, dans une portée historique considérable, que. Quelle est la situation du peuple juif dans ce problème du témoignage qu'il a apporté au moment où il faudra proclamer ce témoignage que pendant, à travers tout le temps de l'histoire, l'épreuve de fidélité consiste dans cette préparation à la lecture. Bon, j'ai redit un peu d'une façon schématique ce que nous avons vu dans les cours précédents. Alors, je vais essayer de vous indiquer une autre lecture de cette dernière formule que je vais vous mettre au tableau, que vous avez dans la paragraphe précédent. Verabanan, Dvarim, Hadvarim, Ladarche. Ici, dans la conclusion de cette mimra, que nous voyons bien hein, le caractère d'autorité différente de la halakha de Rabbi et de la halakha des Hachamim. C'est clair. Alors voilà, je vais d'abord vous expliquer cette deuxième manière de lire, et ensuite nous la vérifierons dans un enseignement pour lui-même, qui est dans le paragraphe que nous allons voir immédiatement. Alors si j'écris ici le premier verset du Kriyat Shema, je m'aperçois qu'il y a six mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a six mots. Nous verrons dans le paragraphe que nous avons étudié qu'en fin de compte, la Kavana est demandée pour tout ce verset, mais en particulier sur le mot de Echad. Alors, nous allons très simplement lire cette formule de la Gemara, Verabanan, Dvarim, Hadvarim, Ladach. C'est-à-dire les Chachamim n'ont pas demandé de Kavana sur cinq des Devarim. He, ça veut dire cinq. Devarim, he, Devarim. Vous voyez, c'est clair ? Ça veut dire qu'à... C'est clair, jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formule ? Ça veut dire que même dans Bechol Lachon, on va nous indiquer qu'il faut mettre, quelle que soit la langue dans laquelle on pense, la kavana du Lashon HaKodesh du mot Echad. Voilà quelle est la règle. C'est-à-dire que dans le système des Chachamim, où les Chachamim autorisent à penser, à dire, penser en toute langue, au moins ce mot-là, ils ont demandé une dracha, la darché. C'est drache. Un. Dvarim, et dvarim, la darché. Les mots, cinq mots, ils n'ont pas demandé. L'hydroge, ça veut dire réclamer. Ça veut dire, un, ils ont réclamé au moins, lequel ? Le mot de Echad. Et nous allons formuler très rapidement quelle est la formule de Kavana qui nous est demandée. Vous le verrez dans tous les Sidurim, c'est ce qui est demandé, la Kavana de mettre sur le mot de Echad. Alors on va étudier ça maintenant. Ça y est, c'est clair jusque-là ? Et s'il nous reste un moment tout à l'heure, on reviendra sur la définition de la personne, du Nefesh chez Maïmonide. Sinon, on le fera demain. Alors avant que j'oublie, puisque tout le monde est pratiquement là, donc demain il y a cours à la même heure, de 10h30 à 12h30. Je vous rappelle que dans le cadre du séminaire général sur la Shoah, j'aurai cet après-midi ici, à 6h30, de 6h30 à 8h, 8h30, un cours de Gemara sur une autre Gemara, et qui se rattache à la notion de Kiddush Hashem par rapport au séminaire général de la Shoah. Donc, alors prenez maintenant votre troisième phrase. Dans la troisième page, alors, lisons ensemble. Tanu Rabbanan, Kumbraïta, Tanu Rabbanan. Nos maîtres ont enseigné. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Adkan Srichat Kavanat Alev. Maintenant, c'est clair. Le premier verset, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, les six mots du premier verset, Adkan Sricha Kavanat Alev. Jusque-là est nécessaire la Kavanat Alev dont avait parlé la Mishnah. C'est clair ? Vous vous rappelez de la formule de la Mishnah ? Ayakov et Batora, Veyazman Amikra, Im Kiven Libo Yatsa. Cette Kavanat Alev, de Im Kiven Libo, Adkan, jusqu'à Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le texte qui a entre, qu'on n'a pas encore lu, on va l'étudier systématiquement. C'était toute cette discussion dont je vous ai parlé en principe sur le nombre des articles de foi. Vous vous rappelez ? Jusqu'où va la Kavana ? Certains vont demander tout, mais par tolérance, un peu moins. D'autres, au contraire, vont avoir un tout autre système, le moins possible, mais si on peut, tout. Vous voyez le. Et finalement, il y a là deux guichots, deux approches différentes de la même halakha. Ça, nous irons plus lentement en détail. Mais je tenais d'abord à mettre en évidence le principe. C'est que, encore une fois, l'identité juive ne va pas être évaluée du point de vue des croyances, mais du point de vue des comportements d'identité. Ça veut dire, en fin de compte, des engagements, et non pas des idées ou des croyances. Cela, à l'échelle de tout un chacun. Mais si quelqu'un s'investit en porte-parole de la Torah, alors là, ce qu'il dit... C'est-à-dire, si vous voulez, cette idée qu'un juif soit excommunié à cause de ce qu'il pense, elle n'est pas une idée. Qu'il soit fusillé à cause de ce qu'il a dit, parce que ça met en sécurité la destinée d'autrui, ça c'est autre chose. Et là, on peut le fusiller par le regard. Mais par exemple, le cas de Spinoza, il est bien clair que Spinoza n'a pas premièrement été excommunié pour ses idées, mais pour son comportement de traître à la communauté juive. Alors on l'a excommunié comme traître, lui et ses livres. Mais c'est a posteriori, ses livres. À partir du moment où il dit « voilà la vérité de la Bible », alors là, ça commence à sentir le... Vous voyez à peu près le... Ceci dit, Spinoza est un grand philosophe, pourquoi pas. Pardon ? Le Kherem, c'était une excommunication. Parce qu'il a été malchin, parce qu'il a été traître politique de la communauté juive d'Amsterdam, vis-à-vis des autorités de, je ne sais pas comment ça s'appelait, la principauté d'Orange, moi je vous casse. Hein. Et nous avons les preuves à ce sujet. C'est pour cela qu'il y a eu procès, pas pour ses idées. On est à travers 4500 ans de tradition, nous en avons entendu des choses. Le fait que Dieu l'a créé, ça ne sait pas entre nos mains. Mais s'il dit, c'est ça que la Bible dit, et par conséquent, les orangistes, les sauciniens, ils s'appelaient, ont raison et doivent mettre en prison les rabbins, alors ça c'est autre chose. Ça c'est Spinoza anti-juif. Alors c'est pour ça qu'on l'a écouté, lui et ses livres. Ça c'est clair. Et tous ces juifs extrêmement orgueilleux, c'est de l'orgueil mal placé, qui parle de Spinoza, grand philosophe juif, réhabilitation du plus grand... C'est de l'orgueil mal placé. Hein? Il faut être beaucoup plus modeste que ça. C'est que quand on fait des cadeaux à l'humanité, même empoisonnés, on les fait de cette envergure. C'est tout.
Et c'est vrai que Ben Gurion a envisagé de mettre Spinoza dans l'enseignement secondaire.
Non seulement ça. Ben Gurion a envisagé de réunir un Sanhedrin pour réhabiliter Spinoza. On s'est mis à rire, alors il a pensé à autre chose. Il avait beaucoup de choses à penser, d'ailleurs. Oui, mais tant qu'il est simple, fidèle, comme vous dites, et que ce n'est pas dangereux pour les autres, alors, la patience. Bon, parce qu'il y a la science et la patience. Mais à partir du moment où il... comment dire, à partir du moment où il s'investit comme porte-parole de la vérité et met en jeu la sécurité d'autrui, qu'elle soit d'ailleurs politique, historique ou spirituelle, alors là, il est justiciable du jugement de la vérité. Vous comprenez?
C'est la différence. Est investi par la communauté.
Comment?
Et un individu ne s'investit pas lui-même comme porte-parole.
Eh bien, justement, c'est ça le drame, la tragédie. Dans quelles règles? D'après quels critères? Qui a investi quoi? Vous comprenez? C'est ça le problème. En général, malheureusement, les gens s'investissent eux-mêmes. vous comprenez? Bon, c'est un problème important que vous posez. Je ne voudrais pas y passer trop de temps. Et puis, c'est un problème d'ailleurs qui est passionnel. Voilà. Parce que c'est le grand drame de la communauté juive depuis à peu près le 6e siècle, après la destruction du deuxième temple. Il y a eu une tentative de s'en sortir au XIIIe, XIVe siècle, mais comme les Juifs sont difficilement un peuple difficile à mettre d'accord entre eux, si vous voulez, quand les Romains ont réussi à arrêter l'investiture légale, légitime, qui est donnée de haut en bas et pas de bas en haut. Je m'explique. Je vous dis souvent cela, je le tiens de notre maître, Jacob Gordin, un maître, c'est pas quelqu'un qui a des élèves, c'est quelqu'un qui a eu un maître. Est-ce que c'est clair? Les autres, on les appelle des centimètres. Parce qu'ils se sont centimètres. Je vais vous dire pourquoi. C'est de Moïse à Josué. Moïse a eu tout Israël comme élève. À sa mort, il a dit, après moi, c'est celui-là. Hein, pas d'autre. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moussara, Léoshua. Et tous les autres. Tous les autres, c'était ses élèves. Mais qui va parler maintenant à la place, parce qu'on ne se met pas à la place de Moïse, mais enfin, après Moïse, c'est celui que Moïse a désigné. C'est pas celui qui a été élu par les élèves. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, dans la mesure où l'investiture vient de bas en haut, Shum Davar, ça n'a pas de sens. L'investiture vient de haut en bas. Les Romains se sont arrangés pour que le caractère public, à la fin de sa vie, le maître de la génération convoquait la communauté et disait « Après moi, c'est celui-là ». Et personne ne peut comprendre pourquoi. Il n'y a que lui qui sait pourquoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? « Vaïdavé Hachem el Moshe, les morts ». Mais ce que Dieu a dit à Moïse, ça y est, Moïse qui le sait. Attendez, laissez-moi finir. Et après, vous pouvez réfléchir. Et alors, les Romains se sont arrêtés à arrêter cela. Ils se sont arrangés à arrêter cela. Alors aujourd'hui, en fait, à travers des tas de péripéties, vous avez les porte-paroles officielles de la Torah qui sont investis comment? Ils sont élus par des collèges dont on ne sait absolument pas comment ils sont composés. Je vais vous donner un petit exemple. Enfin, prenez ça avec humour. Dans une des magasins de photos de Jérusalem, il y a eu pendant des années, c'était l'attraction humoristique du judaïsme français, il y avait la photocopie d'un diplôme d'un rabbin français qui avait besoin d'une photocopie de son diplôme pour devenir instituteur dans je ne sais plus quelle école primaire. Et alors, c'est là que l'humour commence. Le photographe était tellement émerveillé de ce diplôme qu'il a affiché la photocopie dans sa vitrine. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Monsieur un tel, fin d'études rabbiniques, signé Alain de Guy de Rothschild, ou je ne sais pas, un Rothschild quelconque. Alors, imaginez la plaisanterie. Qui signe un diplôme de fin d'études rabbiniques à 18 ans et demi? C'est comme ça qu'on nomme un rabbin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est plus que pourri mestre. D'abord, la notion de fin d'études rabbiniques. on s'arrête d'étudier pour être un peu. Vous voyez, c'est vraiment un caractère. Et qui signe ça? Monsieur de Rothschild. Voilà comment se fait l'investiture. Ça ne veut pas dire que par hasard les rabbins en question ne sont pas des vrais rabbins. Ça, c'est par hasard. Mais c'est pas par Rothschild. Alors, vous avez compris le drame de ce problème. Alors, qui a investi quoi? C'est une vaste plaisanterie. Ça y est, c'est clair? Qu'est-ce que vous faites?
Celui qui s'est senti maître risque d'être pris comme se prendre même lui-même ou d'être pris par d'autres comme étalon de mesure.
Oui, alors voilà. Je vous racontais un midrash. Oui, mais c'est grave pour ceux qui le prennent. Vous comprenez? Parce que celui qui est capable de faire une erreur pareille, c'est qu'il serait prêt à se mettre à la place. Vous comprenez? Possel, ben Momo possel. Et c'est ça le problème. Il y a un midrash comme ça. Ce que j'ai raconté peut-être une fois, dans le midrash Rabba. Et une minute, je vais raconter un midrash. Et alors, au moment où Dieu a dicté la Torah à Moïse, il lui dicte Naase Adam Betsalmenu au pluriel. Faisons l'homme. Alors le midrash raconte que Moïse s'arrête et dit à Dieu, mais tu donnes une perche aux hérétiques, et ils vont te sortir la Trinité de cela, faisant l'homme à notre image. Alors Dieu répond, écrit, et que celui qui veut se tromper se trompe, je l'attends au jugement. C'est ça. C'est-à-dire, celui qui peut se tromper à ce niveau-là, c'est mauvais pour lui déjà. Et je pense que c'est clair. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui aurait été capable de faire la même chose. Bon, je pense que... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, il y a plusieurs ordres. D'après vous, il y a l'ordre de Baruch Hashem.
L'ordre de?
De Baruch Hashem.
Mais c'est Baruch Hashem. Comment pas?
De l'éternel. Oui, et alors l'ordre de...
Ah, vous voulez dire l'ordination?
Non, l'ordre de fait. Je dis que soit...
De quoi vous parlez? Expliquez.
Je parle, vous avez dit que le choix... Ça vient est arrivé de bas en haut à cette place-là, peut-être que de haut en bas, ce n'est pas reconnu.
Donc, ou peut-être c'est reconnu. Ou peut-être c'est reconnu, mais on ne sait pas.
Ah, c'est-à-dire que ça...
On le sait en général longtemps après. Et les contemporains ne peuvent pas s'en rendre compte. Comment?
Vous laissez venir les choses.
Ah non, non, mais c'est catastrophique. Parce que finalement, comme la question a été posée, et alors les Juifs n'ont plus de berger. Sûr, on ne sait pas qui suivre, on ne sait pas où aller. C'est ça? Bien sûr, mais les porte-paroles disent des choses contradictoires. C'est ça le problème. Et voilà le problème. Alors, faites bien attention. Il y a, dans la tradition pharisienne, une démocratie de l'élection du chef des maîtres, si vous voulez, du maître en chef. Mais c'est une démocratie entre les Talmid et Chachamim qui, eux, ont reçu la smicha de leur maître. Vous comprenez? Ce n'est pas un collège consistorial qui élisait le Nassi du Sanhedrin. C'était une démocratie à l'intérieur d'une aristocratie, je veux dire. Il faudrait changer aristocratie d'ailleurs d'une... Non, pas théocratie, c'est tout à fait autre chose. La théocratie, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec la tradition pharisienne. Tout à fait autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Les hachamim du Sanhedrin élisaient leur chef. C'est sûr. Mais qui étaient ces hachamim du Sanhedrin? C'était ceux qui avaient été investis par leur maître. Est-ce que c'est clair? Vous voyez? Bon, alors vous voyez que nous sommes effectivement devant un problème difficile, grave, et il faut ouvrir les yeux. C'est une situation historique, minute, qui résulte de la victoire de Rome. Sur la Judée en son temps. Et les Romains savaient très bien que une des armes terribles qu'ils avaient contre le peuple juif, c'était d'arrêter la smicha. Alors ils l'ont arrêté. Et j'ai essayé de vous montrer le caractère bouffon de ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les rabbins nommés par le diplôme d'école rabbinique ne soient pas, le cas échéant, d'authentiques rabbins. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Ne me faites pas dire ce que je veux vous dire. Mais pour vous montrer que la procédure est bouffonne. Hein. Oui.
Quel est le critère pour une époque donnée où il n'y a pas de Sanhédrin que l'investiture qu'on s'est accordée ou qu'on leur a accordée est authentique ?
Aucun. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ça ne se sait qu'a posteriori. Ou alors, pour la génération, il y a des privilégiés qui ont des yeux perçants. Ce n'est pas qu'ils sont nés en Perse, mais qui voient l'évidence. Voilà. Mais en général, je vais vous donner un exemple. Vous avez entendu parler peut-être du Malbim. Qui a entendu parler du Malbim? Oui. Le Malbim est un des grands d'Israël des dernières générations. En son temps, il a été contesté comme c'est pas possible. Hein? Il a d'ailleurs enseigné à Paris, peut-être même à l'école rabbinique en ce temps-là, quelques années. Le Malbim, c'est un géant. Mais en son temps, on ne savait pas qui il était. Et il a été soumis à une opposition terrible. Après sa mort, et puis après, on s'est rendu compte de quelle dimension était le Malbim. Par exemple. Et puis, Moïse en son temps. Tous les grands d'Israël l'ont refusé en son temps. Moïse. Et puis c'est lui qui avait raison. Non, on l'a su après.
Korach, déjà.
Par exemple Korach, mais pas seulement Korach, tous les grands d'Israël. On vient de lire à peine la paracha de Shlach-Lecha, des explorateurs. Et voilà, et effectivement, on ne peut pas nier le caractère dramatique de cette situation. Les Romains nous ont eu il y a 2000 ans, et ils continuent. Et on continue à leur donner raison. Il y a une espèce de farce dans cette histoire. C'est bouffon. Il n'y a pas de doute. Alors, il faut bien faire attention à ça. Top.
Dans les communautés racidiques, est-ce que le rabbin ne nommait pas son successeur?
Le tzaddik,
oui.
C'est juste. Et parfois, les contemporains ne peuvent absolument pas comprendre pourquoi. C'est par la suite que ça se dévoile. Bien. Alors, pourquoi on a parlé de tout ça? Comment c'est arrivé? À propos de quelle question? Alors, voilà ce que je vous disais. C'est que finalement, les Chachamim, même bien que leur principe c'est en toute langue, en tout cas, pour le mot de Echad, il faut mettre la Kavana du Lachon Hakodesh, celle qui est la halakha selon Rabbi, qui était le Nasi du Sané. Dibré Rabbi Meir, ça c'est l'enseignement de Rabbi Meir. Amar Rabba, et Rabba enseigne halakha ke Rabbi Meir. La halakha est comme Rabbi Meir. Ici c'est un exemple de passage très difficile du Talmud. Parce qu'il y a donc une raison de Rabbi Meir pour dire que c'est comme ça. Il y a une raison de Rabba pour dire que Rabbi Meir a raison. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Bon. Nous aurons à éclairer cela grâce à l'étude des paragraphes précédents. On continue. Tania. Un enseignement de Sumchos. Sumchos était un des membres, un des Tanaïm, c'est-à-dire au niveau de la Mishnah. Et c'est un de ces grands à qui on ne donne pas de titre. Vous connaissez quelle est la règle, on ne dit pas ici Rabbi Sumchos Omer, parce qu'il est plus grand que le niveau de recevoir un titre. Vous connaissez cette règle. C'est Gadol Merabbi Rabban, Gadol Merabban Shmo. C'est-à-dire plus grand que le titre de Rabbi, c'est Rabban, par exemple Rabban Gamliel, Rabban Yochanan Ben Zakkai, et plus grand que Rabban, c'est son nom même, sans titre. Rabbi, c'était Rabbi Uda Kadosh. Oui, c'est un titre. Celui qu'on appelle Rabbi, c'est le Rabbi de la Mishnah. C'est Rabbi Uda Nasi, Rabbi Uda Kadosh. Mais vous avez par exemple des Hachamim qu'on a appelé Rav, Rabba. Ça veut dire que de lui on dit qu'il est le rabbin, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Okay? Le Rabbi. Bon. Donc dans chaque école aujourd'hui, quand on dit le Rabbi, on sait qu'il n'y en a qu'un seul. Alors voilà, l'enseignement auquel nous allons arriver, et c'est là ce qui va nous dévoiler cette kavana du Lachon HaKodesh dans le mot de Echad. Alors, suivons bien. Je peux effacer cela, donc. Amar Sumchot. Kol Amarich Be'echad. Tout celui qui allonge Ma'arich en prononçant le mot de Echad, il dira Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et c'est là qu'est l'itinéraire de Kavana, sur la prononciation du mot de Echad. Tout celui qui allonge le mot de Echad, Ma'arichin lo yamar ushnota, on lui allonge ses jours et ses années. Là, c'est une expression qu'on étudiera pour elle-même. D'abord, la première difficulté apparente, si déjà on lui allonge ses jours, alors on lui allonge aussi ses années. Si déjà on lui allonge ses années, on lui allonge aussi ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire allonger les jours et allonger les années? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire stam allonger? Qu'est-ce que ça veut dire allonger ses jours, allonger les années, ou bien que ses années sont plus longues? Est-ce qu'il n'y a pas un temps objectif? Qu'est-ce que ça veut dire que certains ont des années plus longues que d'autres, des jours plus longs que d'autres? Oui, c'est pas simple. Bon, c'est une grande promesse. Et j'espère qu'on arrivera à élucider un peu le sens de cette formule. On lui promet quelque chose d'important. Celui qui est capable d'allonger le mot de Echad, Ma'arich Be'echad. Après, nous verrons comment cela se réalise dans le rite. Et on lui allonge ses jours et ses années. Amar Rabacha Bar Yaakov. Rabacha Bar Yaakov dit à ce sujet, Ubedalet. Dalet. Ici, nous avons dans le mot de Echad, Aleph. Ré et Dalet. Alors voilà ce que Rab Acha Bar Yaakov dit. On devra allonger dans la prononciation dans le mot de Echad, mais allonger en particulier le mot de Dalet. Vous avez dû remarquer donc dans les synagogues ou entre les Kavanot qu'on prononce le mot de Echad, Echad 2. Il y a une première raison très pshat qui est donné habituellement d'ailleurs au Talmud Torah, qui est absolument exact, c'est pour indiquer la différence entre le mot Echad et Acher. Pour entendre le Dalet et ne pas risquer de dire Resh. Bon, c'est exact, mais enfin c'est pas. Comment Non, parce qu'il y a effectivement le problème est là, la différence entre. El Echad et El Acher. Mais attendez, expliquez ce que vous voulez dire. Pourquoi qu'on entend un Tav?
Achat.
Pourquoi quand il y a un Dalet, il y a un Tav? Pourquoi?
Non, en fait, ici dans notre texte, nous allons voir que c'est le Dalet pour lui-même qu'il faut allonger la prononciation. Mais encore une indication avant de voir la suite. Bilvad shelo yahtof bechet. Et à condition qu'il ne soit pas trop furtif, je ne sais pas comment on dit ça en français, yahtof, aller trop rapidement sur le chet. Alors voilà ce qu'on nous demande. Il faut allonger la prononciation de Echad en appuyant le dalet, mais à condition de ne pas avaler le chet. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir la suite. Rabbi Irmiya, on nous raconte le cas de Rabbi Irmiya, Havayati Kamed et Rabbi Chiya Barava. Se trouvait, il était en train de dire Kriyat Shema devant son maître qui était Rabbi Chiya Barava. On vous a mis Chiya Barava entre parenthèses parce que c'est un texte pour Kamed et Rabbi, devant Rabbi lui-même. Hazayed et Hava Marir Tuva. Son maître l'a vu qu'il allongeait trop. Amarlé, il lui a dit, Kivan de Amlichte, dès que tu l'as reconnu comme roi, les Marlaul Mata, en haut et en bas, ou l'Arba Ruchot HaShamayim, et dans les quatre dimensions de l'espace, tout l'Asrichat, tu n'as pas besoin de plus. Et c'est là que nous avons l'explication de l'ensemble. Et voilà comment vous trouverez les Kavanot dans les Sidurim, dans les livres de prière, c'est que la prononciation du mot, de la lettre Aleph, c'est Kivan der Mlichte, reconnaître Dieu comme souverain unique. Aleph, c'est un. les marlons le matin, en haut et en bas, les sept cieux et la terre, ça fait huit.
Huit.
Les marlons, sept, les matins, un, ça fait huit. Vous vous rappelez de la formule dans la Gemara, qui vint de Amirté, dès que tu l'as reconnu comme roi, un, il est le seul souverain, alors, en haut et en bas, c'est-à-dire les cieux et la terre, ça fait huit. Het, c'est huit. Parce qu'il y a sept cieux et une terre. Pourquoi il y a sept cieux et une terre, c'est un autre problème. Enfin, c'est comme ça. Ou l'arbar, l'uchot, à Shamaïm, et dans les quatre directions de l'espace, ça fait quatre, tout la srichta. Plus, c'est pas nécessaire. Hein? On peut dire. Et alors, je vais essayer de vous formuler un peu en termes de culture contemporaine quel est le contenu de cette kavana. Mais d'abord, la kavana formelle pour elle-même. C'est-à-dire, pendant que je dis Echad, alors Aleph 1, Chet en haut et en bas, Dalet dans les quatre dimensions de l'esprit. Voilà ce qu'on nous demande comme kavana simple. C'est ça le Dvarim, Het Dvarim Nadarché, vous vous rappelez? C'est que même dans l'opinion des Chachamim, Bechol Lashon, je vais dire Shema, en pensant même en français ou en anglais, peu importe, mais au moins en disant « Echad », j'aurai cette kavana là. De quoi s'agit-il? C'est un texte pas simple. Un texte abrupt. De quoi les haramim s'occupent? Qui aurait une proposition à faire pour expliquer ça? Je suis persuadé que vous pouvez arriver par vous-même. Quelle est la notion qu'il y a là de reconnaître la souveraineté de Dieu? Qu'il est souverain, Meler, unique souverain, Aleph, en haut et en bas, et dans les quatre dimensions de l'espace. Voilà cette kavana particulière qu'on nous demande là. En tout cas, au moins celle-là. Et alors, on a réalisé ce que la Mishnah avait demandé. Bien entendu, suivant les niveaux de capacité de Da'at, de connaissance, alors il faudra mettre la kavana non seulement dans tout le premier verset, comme a dit Rabbi Meir, et que Rabbi dit la halakha comme Rabbi Meir, mais dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, dans le troisième, et en fin de compte, ce qu'il prie.